Bon, alors on s'attendait à en savoir plus sur l'état de santé du boxeur Adonis Stevenson aujourd'hui. C'est plus ou moins le cas, là. On va en parler tout de suite avec le collègue Jérémy Filosa. Salut, Philo.
Salut.
En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il devrait rester dans un coma artificiel jusqu'à la fin de la semaine.
Oui, vous vous souvenez que dimanche, Yvon Michel avait dit que les médecins lui avaient dit que les 48 prochaines heures allaient être critiques. Malheureusement, les 48 dernières heures sont passées. Et on n'est pas plus avancé. En fait, les informations que j'ai eues, c'est qu'on songeait hier à peut-être tenter de le faire sortir de ce coma aujourd'hui. Finalement, on a décidé de repousser ça à la fin de la semaine. Est-ce que c'est la fin de la semaine vendredi ou est-ce que c'est la fin de la semaine dimanche? Je ne sais pas. Je pense qu'on va réétudier la situation un peu plus tard dans la semaine. Mais écoute, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je ne suis pas médecin. Je sais pas si ça, c'est bon signe. Peut-être qu'ils se disent, non, ça va vraiment bien comme ça va là. Fait que laissons ça comme ça. Ou est-ce qu'ils se disent, ça va pas bien, donnons-nous plus de temps pour voir s'il y a une réaction ou quoi que ce soit.
Moi, ça me dit, je ne suis pas spécialiste de la santé, évidemment, non plus, mais ça me dit qu'il n'y a pas assez de progrès pour faire une intervention tout de suite.
T'as possiblement raison. Puis, bon, on le sait, là, on est obligé de faire un genre de trou dans son crâne pour faire sortir le sang, hein, malheureusement. On ne sait pas exactement pendant combien de temps son crâne a été... le cerveau a été immersé là, dans le sang. On sait que ça a causé de la pression. Et souvent, ça peut laisser des séquelles. Mais on n'a aucune idée tant et aussi longtemps qu'il ne se reverra pas. Donc, on est tous en attente. Mm. Malheureusement, moi, j'ai une boule dans l'estomac depuis samedi soir, je te dirais. J'espère à chaque jour que le lendemain, on va avoir une bonne nouvelle. Malheureusement, il va falloir continuer d'être patient. Et pendant ce temps-là, c'est bizarre que ça arrive à ce moment-là, mais Marcus Bayer, un autre boxeur qu'on a bien connu au Québec, avait battu Éric Lucas, l'ancien champion du monde, à 47 ans, est décédé, sauf qu'on n'a pas vraiment d'informations. On dit qu'il a livré une courte bataille contre une maladie quelconque, mais on n'a pas identifié. Assez particulier, puis je pense que c'est certain que les médecins qui suivent attentivement tout ce qui se passe dans le domaine de la sécurité de la boxe doivent se demander si c'est relié à sa carrière ou pas.
Oui, on aura sûrement plus de nouvelles là, au cours des prochaines heures dans le cas de Bayer, et t'as raison, on continue de se croiser les doigts. Pour Stevenson, ça doit être terrible pour sa famille là, de ne pas savoir comme ça, mais il faut donner une chance aux médecins, ils savent ce qu'ils font quand même.
Ouais,
bon, à surveiller ce soir, et j'y reviendrai plus tard à l'émission avec le collègue Sylvain Saint-Laurent que t'as rencontré aujourd'hui à Montréal. Donc, les sénateurs qui visite le Canadien au Centre Bell, et c'est vraiment ce qu'on appelle un match de quatre points, Jérémy.
Oui, puis tu sais, j'en ai parlé un peu avec Guy Boucher ce matin, puis il semblait pas d'accord avec moi, mais j'ai dit c'est un peu deux équipes qui se regardent dans le miroir, parce que il y a personne qui s'attendait à quoi que ce soit de ces deux équipes-là en début de saison. On disait la même chose des deux clubs, ou à peu près. Beaucoup de jeunes joueurs, ça va être une année difficile, on va apprendre de nos erreurs et tout cela. Ce sont des équipes qui, défensivement, vont avoir de la difficulté. C'est le cas pour les deux équipes.
Puis d'ailleurs, deux équipes, Jérémy, qui sont confortables dans cette position-là. On les répète souvent qu'il n'y avait pas d'attente cette année de part et d'autre. On veut jouer le jeu d'être des underdogs.
Oui, tu as raison de le mentionner. Puis on est en train de vivre un peu la même chose à Ottawa et à Montréal. C'est-à-dire qu'on a plus de plaisir à regarder les équipes que l'année passée. Oui. Plus de plaisir qu'on s'attendait à en avoir cette année. Et Guy Boucher l'a dit ce matin, il est très à l'aise dans le rôle des sénateurs présentement. Puis tu sais, il a avoué ce matin, il a dit, c'est beaucoup plus le fun. Tu sais, Guy, à un certain moment donné dans sa carrière, a été beaucoup critiqué pour son style défensif. On se souviendra à Tampa ce qui était arrivé et tout ça. Mais lui se plaît dans le style de hockey que jouent les sénateurs présentement, en reconnaissant bien sûr que les améliorations défensives des derniers jours aident beaucoup.
Il était temps.
Puis, tu sais, je parlais avec Matt Duchesne ce matin, puis il a dit, moi, ce que je suis content, c'est qu'on est capable de mieux jouer défensivement. Puis ça ne m'empêche pas du tout de me porter en attaque et de produire. Et Guy Boucher a parlé aussi beaucoup de l'apport de Thomas Chabot quand il dit, ce gars-là, c'est pas seulement par son talent, mais de pouvoir avoir la maturité à cet âge-là de dire, je suis bon offensivement, je suis capable de contribuer défensivement, mais je dois demeurer intelligent et savoir quand faut que je pinche, quand faut que j'y aille, mais quand aussi je dois jouer, je dois rester derrière. Et ça, Guy semble beaucoup l'apprécier.
Il y a quelque chose dans sa personnalité, ce gars-là. C'est une force tranquille, selon moi, Thomas Chabot, parce que c'est incroyable de jouer justement avec autant de confiance à cet âge-là comme défenseur dans la Ligue nationale. Et si on regarde sa progression, là, si on faisait le repêchage aujourd'hui, d'après moi, il serait classé numéro un, Jérémy.
Ah, définitivement. J'ai posé la question, j'ai dit, t'attendais-tu à avoir une année aussi bonne, tu sais, avec toutes les nouvelles responsabilités qu'on te donne? Puis il a dit, j'ai pas voulu me mettre d'attente dans la tête. Je savais que j'aurais beaucoup d'opportunités, beaucoup de responsabilités. Puis tout ce que je me disais, c'est je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ben écoute, ça fonctionne.
Ça va pas pire. Oui, ça va pas pire.
Absolument.
Bon, du côté du Canadien, je comprends que c'est pas les Canadiens nordiques, là, mais il y a quand même une certaine rivalité sénateur-canadien. Ça doit être décevant pour des Québécois comme Deslauriers, qui a d'ailleurs joué avec les Olympiques ici à Gatineau, et Charles Hudon d'être laissé de côté.
Oui, ça c'est certain. Écoute, des fois on s'explique mal certaines décisions. Faut dire que les deux gars ne se sont pas nécessairement démarqués dans les dernières semaines non plus. Mathieu Péka, il va être content lui aussi parce que c'est un gars qui vient
des 67.
Exactement, qui vient de la région, donc lui va être content de jouer ce soir. Mais on dirait que c'est... Je veux pas lancer la pierre, mais on dirait que c'est tout le temps beaucoup plus facile de tasser les petits Québécois de l'alignement. On sait que les gars n'iront pas public faire des difficultés à l'entraîneur ou même à l'organisation. Puis moi, ça me mène aussi au dossier de Nikita Sherbak.
Oui, bien j'allais justement dire, au moins, Deslauriers et Hudon, on les a gardés. Contrairement à Sherbak qu'on a soumis au ballottage.
Oui, mais ça, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis j'aimerais vraiment que le Canadien puisse nous donner au moins une explication, une indication de pourquoi on a abandonné sur ce gars-là aussi jeune. Parce que il y a un paquet de gars chez le Canadien de Montréal présentement qui n'ont pas un tiers du talent de Nikita Sherbak. Et dans cette ligue-là, je pense que c'est assez prouvé, là, le talent fait maintenant foi de tout. Puis tu peux avoir la détermination que tu veux. Si tu n'as pas le talent qui va avec, tu n'arriveras pas à tes fins, malheureusement. Et Sherbak, il avait le talent. Puis j'ai trouvé qu'on lui a pas suffisamment donné la chance de se faire valoir. D'ailleurs, on lui a fait commencer l'année à Montréal pour le laisser poireauter sur la galerie de presse à tous les soirs. Si c'était un problème d'attitude, de personnalité, ben dans ce cas-là, moi, je mets ça sur les épaules du Canadien. Parce que là où on est rendu aujourd'hui, quand tu repêches un joueur, tu passes par toutes sortes d'entrevues, puis tu fais des enquêtes, puis tu t'assures d'avoir vraiment...
Le profil de l'athlète en question.
Exact. Mm. Puis si ce gars-là, c'était un gars qui avait un problème d'attitude, bien, il aurait fallu qu'on le sache, puis il n'aurait jamais fallu qu'on le repêche. Bien, si on l'a repêché en sachant que c'était un gars qui n'était peut-être pas aussi travaillant qu'on l'espérait, bien, dans ce cas-là, tu sais qui il est. Mais donne-y une chance. Parce que si tu l'as repêché et il était bon à ce moment-là, donne-y une chance. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais je trouve qu'on a abandonné très, très tôt sur Nikita Sherbak et je trouve ça décevant.
On verra la suite à Los Angeles. Il me reste 45 secondes, oui. Jérémy. Les gouverneurs de la Ligue nationale qui ont officiellement dit oui à Seattle et à la coquette somme de 650 millions de dollars US.
Ouais, moi, honnêtement, là, j'ai bien de la misère avec ça. Tant mieux pour Seattle, c'est bien correct. Là. Puis c'est des bons marchés, Vegas puis Seattle, de sport aux États-Unis. Mais quand je vois la façon dont ça s'est fait maintenant, pour Seattle. Il n'y a pas eu de « Oh, on va ouvrir le processus d'expansion, les villes intéressées, amenez-vous, on va étudier vos candidatures. » On ne voulait pas du tout se retrouver encore une fois les culottes baissées comme ça a été le cas pour Québec. Puis ceux qui pensent vraiment que Gary Bettman avait à un certain moment donné une volonté d'amener une équipe à Québec, oubliez ça. Oubliez ça. Moi, dans mon livre,
est-ce que les gens de Québec ont vraiment une volonté de payer 650 millions US?
Ouais, ben là, on est rendu là, je veux dire. À 500 millions, il y a une couple d'années, à 650, c'est là qu'on est rendu. Surtout que si tu me poses la question, il y a matière à poursuite là-dedans. Parce que Bettman a tellement répété souvent, ça prend un building à Québec, ça prend un building, ça prend un building. Ben oui, ben ils l'ont bâti, le building. Là. Puis là, tu fais quoi, là? Tu sais, quand on te pose des questions sur Québec, et il y a même pas... tu sais, il regarde dans les airs, puis il répond du bout des lèvres. Ben oui, mais c'est ça.
Il faudrait lancer un recours collectif, parce qu'il y a une bonne partie de l'édifice qui a été construit avec notre argent, les Québécois.
Regarde, moi je dirais pas non.
Merci Philo.
Salut.
Bon match ce soir. Bye.